deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des domestiques et de la domesticité. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir expliqué hier avec Nassima Mekaoui, qui consacre sa thèse, la place de la domesticité dans l'Algérie coloniale, et avant demain de nous demander les différences entre domesticité en France et en Grande-Bretagne, nous vous proposons ce matin un documentaire de Dominique Pluzac et Françoise Camard que nous dédions à la mémoire de la grande historienne de l'immigration polonaise en France, Janine Ponty, récemment disparue. Janine Ponty avait en effet accepté de participer à Catégorité Bonne Femme, ce documentaire qui raconte l'histoire de ces jeunes fille polonaise venue travailler dans les fermes françaises de l'entre-deux-guerres. Elle a malheureusement été emportée brutalement. Nous saluons donc sa mémoire en ouverture de cette émission et nous vous laissons écouter donc cette histoire incroyable de ces jeunes filles venues donc pendant l'entre-deux-guerres en France pour travailler comme filles de ferme, pour aider la France à se reconstruire, en particulier dans le monde rural, et qui souvent ont eu un destin beaucoup plus terrible que ce qu'elles imaginaient avant de partir de Pologne.
Chère madame, je vous écris ces quelques mots. D'abord, je m'adresse à vous avec ces mots, béni soit Jésus-Christ, et vous me répondrez, comme je me doute, pour les siècles des siècles. Le travail est pénible, mais je le supporterai, si au moins je pouvais me distraire avec quelqu'un le dimanche, avec des gens polonais. Je suis depuis longtemps ici, et j'ai pas vu de gens polonais. Je suis très triste et malheureuse, de pas pouvoir parler polonais. J'ai personne ici, sauf le Seigneur qui veille sur moi. Chère madame, est-ce que vous pourriez m'envoyer l'adresse des personnes polonaises, quelque part, pas loin, pour que je puisse aller chez eux me distraire? Je vous le demande encore une fois, faites-le pour moi. Je vous salue très bas et vous demande une réponse rapide. Paulina Jerat.
Że jesteś zdrowa, z łaski Pana Boga.
Wielmożna Pani, krzesłam kilka słów i poproszę o doradę, bo mojej siostrze
teraz zmieniło. Teraz gminy, tylko dajam 75 franków, to ja teraz nie potrafię żyć.
Gospodarz jej nie płaci.
Tak wszyscy gospodarze mówią,
za kwiecień, za
że nam tylko dają po 200 franków
jedzenie
na miesiąc. To ja nie potrafię żyć. To ja nie wiem, co będę robić. A doktor mówi, że to choroba. To z kością, to sam nie wiem, czy to może być.
Catégorité bonne de ferme. Elle se prénomme Władysława, Antonina, Zofia, Agnieszka ou Maria. Elles ont officiellement 21 ans, mais parfois un peu moins. Elles arrivent des terres les plus pauvres, à l'est de la Pologne. Le pays vient de récupérer frontières et territoires avec la fin de la Première Guerre mondiale. Embauchées pour traire les vaches, Zofia, Agnieszka et les autres bonnes de ferme écrivent leurs doléances en polonais à Julie Duval, l'inspectrice départementale de la main-d'œuvre immigrée. Bilingue, elle est nommée par le préfet pour les aider. À la réception de chaque lettre, Julie Duval ouvre un dossier. 1300 lettres ont été retrouvées. Elles sont conservées aux archives départementales de Tours. Parmi elles, 131 ont été traduites en français.
Ani w nocy nie mogę spać po takiej ciężkiej pracy, kochana mamusiu, i jeszcze muszę ciągnąć wodę ze studni dla tych krów.
Ce sont des lettres produites pour obtenir et pour surtout réclamer, se plaindre des difficultés qu'elle rencontre.
Sylvia,
mais ces lettres vont beaucoup plus loin, puisqu'elles ont tissé un lien tout à fait particulier avec Julie Duval, donc, qui est inspectrice dans ce département, dans cette région. Elles ont un rapport très affectif avec cette femme, et surtout Julie Duval a conservé ses lettres. Et elle s'est beaucoup démenée pour ces femmes. Elle va bien au-delà de ce que normalement son travail devrait être mené, c'est-à-dire qu'elle devrait simplement accuser peut-être réception de ses plaintes, mais elle va vraiment faire énormément de choses pour ces femmes. Et donc, on a un fonds assez exceptionnel parce que c'est pas véritablement des lettres administratives, c'est pas des dossiers judiciaires, policiers. C'est vraiment une relation qui s'est tissée entre ces femmes polonaises et Julie Duval, qui elle-même est d'origine polonaise.
Tours, le 23 mai 1933. Mon action est limitée encore par la difficulté que je rencontre à faire mes inspections. C'est très onéreux et, pour un budget qui a déjà de la peine à s'équilibrer, c'est presque irréalisable. Il faut dire aussi que si je devais y aller toutes les fois que les ouvrières m'appellent, les 365 jours de l'année n'y suffiraient pas. Il y a des endroits éloignés où il faut dormir sur place. C'est une grande perte de temps et d'argent. Je l'évite.
S'il vous plaît, madame, je peux pas rester à cette place. C'est dur. 7 vaches à traire et aller au champ tous les jours alors que mon bras me fait mal. La patronne me crie dessus que je traie mal les vaches. Je vous demande, madame, de me mettre à un service plus petit chez des gens. Que je n'ai pas des vaches à traire. S'il vous plaît, répondez à ma lettre. Cherchez-moi un autre service et je vous oublierai pas. Je vous salue, madame, et au revoir. Justyna Hill. Répondez à ma lettre, madame.
On a une espèce de photographie vraiment de ce qu'elles vivent pendant le laps de temps où elles restent en France, qui est souvent finalement assez court, puisque les contrats sont d'un an, reconduits parfois. Elles restent en moyenne 3 ans.
Contrat de travail. Umowa najmu do pracy. La sous-signée déclare s'engager en qualité d'ouvrière agricole pour effectuer tous les travaux agricoles qui lui seront demandés aux conditions de salaire fixées de 180 francs par mois par l'employeur. L'employeur effectuera des retenues mensuelles de 1/10 du salaire global versé à l'ouvrière en conformité avec les dispositions de l'article 62, livre 1er du Code du travail. Il est convenu que la nourriture et le blanchissage fournis par l'employeur seront évalués forfaitairement à 250 francs par mois. L'employeur remboursera à l'ouvrière, lors de l'expiration de son engagement, le total des retenues qu'il aura effectuées. Si l'ouvrière rompt son contrat avant la date fixée pour son expiration, les retenues seront acquises à l'employeur. Si elle n'atteigne pas la somme maxima fixée, l'ouvrière devra en outre verser la différence à l'employeur pour compléter la dite somme. L'ouvrière déclare se conformer, au point de vue travail et repos, aux habitudes locales. Faite à l'Office de la main-d'œuvre agricole, le 12 novembre 1932.
Dans le contrat, ce qui est précisé, que normalement, elles ne doivent pas se séparer des 5 documents définit leur statut ouvrière en France.
Monica Salmon-Siama.
Donc on a le passeport, document d'identité pour un étranger. On a un contrat de travail qu'elle signe avant d'arriver en France. Ensuite, on a la carte d'identité qu'elles sont obligées d'avoir en séjournant en France. Donc elles doivent faire la demande. Il y a le registre d'immatriculation et puis le livret de paye. Le livret de paye doit rester avec l'ouvrière. Mais, donc, beaucoup de cas dont on parle dans les lettres, c'est les fermiers qui gardent ces livrets de paye. C'est là où il y a tout un problème, en fait, parce que normalement, c'est là quand elles doivent mettre le montant de chaque paye, toutes les sommes retenues, où on peut contrôler, en fait, exécuter une sorte de contrôle dans des rapports ouvrières-employeurs. Mais elles n'ont pas vraiment ces visus parce que souvent, c'est les employeurs qui gardent. Elles s'adressent à Julie de venir intervenir parce qu'elles n'ont aucun document d'identité. Pour les agriculteurs, pour les fermiers, ces moyens de retenir les documents d'identité, c'est aussi un moyen de pression parce que sans document d'identité, elles ne peuvent pas quitter la ferme. Elles ne peuvent pas prendre un moyen de transport. Donc, voilà.
Thank you.
Convention relative à l'émigration et l'immigration signée à Varsovie le 3 septembre 1919. Le gouvernement français et le gouvernement polonais conviennent de donner toute facilité administrative aux nationaux de chacun des deux pays désireux de se rendre individuellement dans l'autre pour y travailler, ainsi que pour leur rapatriement dans leur pays d'origine. L'administration qualifiée de chacun des deux pays veillera à la protection des travailleurs. C'est à cette administration que seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités consulaires compétentes, toutes les réclamations formulées par les travailleurs étrangers, lesquelles pourront être rédigées dans leur langue maternelle en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par leurs employeurs ou les difficultés de toute nature qu'ils pourraient éprouver du fait de leur présence en pays étranger. Un règlement établi d'accord entre les administrations françaises et polonaises compétentes déterminera en outre les conditions dans lesquelles seront transférées dans les caisses d'épargne du pays d'origine les économies déposées par les travailleurs dans les caisses d'épargne de l'autre pays.
Boże mój, Boże. Przyszła do niego matula, jego kochany Janku, cóż ci takiego, mój Boże, cóż ci takiego? Matulu moja, idź precz ode mnie.
Il faut distinguer deux sortes d'immigration. Tout d'abord, la migration qui concerne les femmes ouvrières, elle s'inscrit dans un flot de migration ouvrière massive du début du XXe siècle, mais elle est précédée par ce qu'on appelle en Pologne la grande immigration du XIXe siècle, qui va se diriger plutôt vers les métropoles et surtout Paris. La Pologne disparaît de la carte politique de l'Europe en 1795 suite au troisième partage par ses puissants voisins, la Russie, l'Autriche et la Prusse. Et elle n'existe pas sur la carte européenne pendant 123 ans. L'État polonais est né en 1918, ça va de la Deuxième République. Par contre, le peuple polonais, il n'abandonne jamais cet espoir de revoir son pays renaître. Et du coup, tout au long du XIXe siècle, on va assister aux plusieurs insurrections. Et la deuxième, c'est l'insurrection du mois de novembre en 1830. Et c'est elle qui va provoquer ces départs massifs des Polonais. Et c'est là qu'on va assister à un flux migratoire vers la France, parce que la France va incarner aux yeux des Polonais ces rêves, en quelque sorte, républicains du peuple qui se révolte. Les Français ont donné illustration avec la Révolution française. Et c'est là que les Polonais vont chercher le soutien politique pour porter un projet, on peut dire, de regagner l'indépendance. L'émigration à laquelle on assiste au début du XXe siècle, elle a tout un autre caractère, en fait, parce que celle-ci, ça va être une immigration massive et ouvrière qui naît après la signature des conventions entre deux États, en fait. La convention qui est signée entre la France et la Pologne en 1919, le 3 septembre 1919, c'est la première. Et cet accord qui est signé au début du XXe siècle s'inscrit aussi un peu dans la politique des États modernes, de toute une autre carte européenne qui renaît, qui se profile après 1918. Et puis là, l'État polonais qui renaît en 1919, ce n'est pas un royaume, c'est la Deuxième République polonaise avec une politique sociale, des lignes politiques tout à fait nouvelles. Les gens, même s'ils sont, on peut imaginer le peuple qui est très content de retrouver enfin une sorte d'identité politique, mais qu'il est obligé en même temps de le quitter pour pouvoir survivre ou vivre ou de faire des économies, avoir un niveau de vie. C'est pas pour faire des grosses économies, de mettre l'argent de côté, c'est vraiment pour survivre en quelque sorte. Dans la convention, on recrute différents types d'ouvriers, donc des ouvriers qui vont partir vers l'industrie, les mines, et aussi des ouvriers agricoles, et ceux voilà, qui cherchent du travail dans l'agriculture, dans, qui vont se retrouver dans le département d'Indre-et-Loire, vient pour la plupart des régions de Galicie, de Petite-Pologne, donc autour de Cracovie, et c'est des régions vraiment agraires, on peut dire, donc campagnards de la Pologne. La plupart des Polonais recrutés dans le cadre de cette convention, mais ça concerne l'agriculture à l'industrie, ça va être 500 000 Polonais qui se retrouvent en France, voilà, dans des flots migratoires sur ces 20 ans.
Demande d'ouvriers agricoles étrangers. Ouvriers isolés. Catégorie A. Vacher. Homme à toute main sachant traire, ayant manifesté le désir de se spécialiser et susceptible de devenir par la suite un vacher accompli. Catégorie B. Bouvier. Homme sachant mener les bœufs de travail et connaissant en outre tous les travaux agricoles. Catégorie C. Chartier. Homme sachant conduire un attelage de plusieurs chevaux, sachant bien labourer, homme apte à l'entretien d'un jardin sans qu'une connaissance spéciale des quatre branches lui soit demandée. Homme à toute main, apte à tous les travaux agricoles en général et connaissant la conduite des chevaux. Catégorie express. Homme à toute main express, apte à tous les travaux agricoles en général et connaissant la conduite des chevaux. Catégorie V. Vachère. Susceptible de traire 10 à 12 vaches. Catégorie T. Bonne de ferme. Sachant traire et apte aux travaux de basse cour et d'intérieur de ferme. Catégorie rapide T. Bonne de ferme rapide. Sachant traire et apte aux travaux de basse cour et d'intérieur de ferme. Catégorie X. Bonne de ferme. Ne sachant pas traire, mais apte aux travaux de basse cour et d'intérieur de ferme. Rapide X. Bonne de ferme rapide. Ne sachant pas traire et apte aux travaux de basse cour et d'intérieur de ferme. Catégorie Z. Spécialiste. Doivent être mentionnés dans cette catégorie tous les ouvriers qui ne peuvent être compris dans l'une des catégories ci-dessus. Quelques explications aussi précises et brèves que possible devront être données.
Le décret présidentiel du 11 octobre 1927 interdit le recrutement des Polonaises ayant moins que 21 ans et le 18 ans pour les garçons. Par contre, ce qui arrivait souvent, les filles volaient, par exemple, l'identité de ses sœurs aînées. Donc parfois, on retrouve des filles qui ont moins que 21 ans, mais selon le pourcentage en ce qui concerne les femmes qui écrivaient à Julie Duval, plus de femmes ont entre 22 et 26 ans. Ça veut dire le pourcentage de femmes qui ont plus de 30 ans, il est moindre. Chaque ouvrière, parce que c'est le terme qui est employé au moment des signatures de contrat, cette catégorie d'immigrés qui venait dans le cadre de la Convention de 1919, c'était soit un travailleur, une travailleuse agricole, soit un travailleur industriel. Et du coup, le contrat d'embauche était signé avant le départ en France. Et dans le contrat, cette catégorie du travail pour laquelle on était embauché en France était précisée. En arrivant sur place, on recevait une sorte de sauf-conduit avec la destination finale, donc qui devait servir comme un document temporaire jusqu'à l'arrivée sur le lieu de résidence.
On arrivait où quand on arrivait en France ?
On arrivait au dépôt de Toul. Donc c'était le centre d'accueil par lequel transitaient en fait tous les émigrés venus de l'Europe centrale. Et il y avait un lieu équivalent en Pologne, c'était le centre de départ qui était géré par la France, parce que dans le cadre de la convention qui était signée en 1919, c'est la France qui avait le droit de superviser le recrutement sur place. Donc là, on voit le rapport des forces. Ça veut dire, au moment de signature, le pays renaissant n'était pas, on peut dire, dans le rapport égal pour négocier certains points de convention. Et du coup, le point du départ à Mysłowice, en Silésie, c'était aussi le centre de sélection des ouvriers, parce qu'on passait un examen médical. On ne devait pas être malade. En venant en France aussi, les femmes souvent passaient un examen gynécologique pour s'assurer qu'elles ne sont pas enceinte avant de venir. Donc, il y a des récits concernant ces voyages qui, pour les femmes, ces transports en train de Mysłowice jusqu'au dépôt de Toul, parfois il y avait des conditions pas très, on peut dire, appropriées aux femmes pour ces transports collectifs. Là, il y a des familles, mais il y a des femmes célibataires, il y a des hommes célibataires qui voyagent. C'est un flux important, en fait. Et le voyage, il est lent. Et en plus, en arrivant à Toul, on n'est pas tout de suite dirigé vers le lieu de destination. On passe aussi un contrôle sanitaire. Donc, il y a plusieurs étapes dans ces voyages. Et l'arrivée, même pour cette femme, cette ouvrière agricole, dans les campagnes d'Indre-et-Loire, c'est vraiment l'ultime étape d'un long, très long voyage.
Umowa najmu do pracy. Artykuł pierwszy. Niżej podpisany robotnik zobowiązuje się służyć u gospodarza w charakterze robotnicy rolnej do wykonywania wszelkich robót rolniczych stosownie do wymagań i na następujących warunkach płacy. 280 franków miesięcznie wyznaczanych przez pracodawcę. Artykuł drugi. Umowa niniejsza ważna jest na przeciągu 12 miesięcy. Licząc od dnia.
Malgré tout, ces conventions établissent des droits. Elles ont un droit, il y a des choses qui sont clairement indiquées dans les contrats, c'est une certaine protection sociale, notamment dans le cas des accidents de travail. Elles sont également logées, il y a des chiffres qui sont précis de rémunération, ce qui leur permettra d'ailleurs de faire des revendications précises par rapport à ce qui leur est promis. Alors, le système est encadré par la Convention, par l'État, mais ce sont des sociétés privées qui l'organisent, hein, des organismes qui sont en relation avec le ministère français. Et l'employeur va payer ces organismes qui sont chargés du recrutement en Pologne et du transport. C'est d'ailleurs la première source de conflit, c'est-à-dire que les patrons considèrent qu'ils ont déjà beaucoup déboursé pour faire venir ces Polonaises, déboursé de l'argent, ils veulent donc en quelque sorte se rembourser. Alors, ce remboursement est prévu, bon, il y a des règles, mais souvent les patrons préfèrent, au moment où elles arrivent, et au moment où le contrat n'est pas encore complètement établi, ils préfèrent ne pas leur payer leur premier mois. Et puis également aussi considérer qu'il faut qu'ils les habillent. Alors, l'habillement, c'est surtout les sabots qu'on va leur donner et pas grand-chose d'autre. Et puis, on leur retient sur leur gage, les lessives, beaucoup de choses. Donc, elles vont se plaindre parce que justement, par rapport au salaire qu'on leur avait indiqué, il y aura souvent donc des marges de manœuvre. Et les employeurs, eux aussi, ont fait des demandes très précises. Hein. Ils ont coché des cases, s'ils voulaient un homme ou une femme, s'ils ont des nationalités préférées, parce qu'il n'y a pas que des Polonaises. Hein. Même en Indre-et-Loire, où elles sont évidemment majoritaires, il y a des Yougoslaves, il y a des Tchèques, Tchécoslovaques. Voilà. Mais bon, les plus nombreux sont ces Polonaises.
Mais le patron doit signer le bulletin de salaire, je crois.
Oui, alors il y a la signature du bulletin de salaire, il y a oui, toute une série de réglementations. Mais entre le fait de signer le bulletin de salaire et puis tout ce que vous pouvez retenir comme sorte de gage parce que voilà, il faut qu'elle paye son savon, qu'il faut qu'elle paye l'usure de ce qu'elle a pu casser ou ce qu'elle voilà, et puis très souvent elles sont malades. Enfin, il y a quand même des moments où elles sont malades, enfin très souvent dans les lettres on le voit bien, et les patrons refusent de payer par exemple le fait de faire venir un médecin. C'est assez fréquent.
Sylvia April, le niveau de salaire de ces immigrées polonaises était équivalent aux autres femmes qui étaient employées dans ces fermes ?
Normalement oui, puisque donc l'égalité de salaire est un des éléments de codification de ces contrats. Elle touche à peu près 200 francs, parfois moins, ce qui est donc un niveau inférieur, mais qui est à peu près celui auquel serait payée aussi une autre femme française à ce moment-là dans les campagnes. Celles qui sont bien payées disent qu'elles sont payées 300 francs.
Lublin, le 21 septembre. Je m'excuse, madame, mais est-ce que vous serez assez bonne pour venir encore une fois à Lublin, pour régler encore une affaire avec nous ? Il y a, madame, un malentendu entre moi et le fils du patron. Je travaille ici depuis 7 mois, et pour la chose, il m'a pas laissé tranquille du tout. Mais il est venu chez moi, et moi je parais aussi à le repousser. Il m'a prise de force en me criant dessus, et il m'a violée. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant, pauvre de moi? Je vais me pendre ou me noyer? Parce que j'ai pas d'autre issue. Où aller? Et lui, ça le fait rire quand je lui ai dit. Le 20 octobre, il part à l'armée, et moi je reste. Que vais-je faire? C'est pourquoi je vous en prie de tout cœur, je vous supplie, soyez assez bonne pour venir encore une fois, pour parler avec eux. Je vous salue très bas, et vous baise les mains avec respect. Maria Bistua.
Claude Delage, où sommes-nous ici?
Ici, nous sommes devant le manoir de Bourdigal. À la fin de la guerre, en 1918, ce manoir se trouvait inoccupé et il a été donc transformé en pouponnière sur l'initiative de la vicomtesse Sabine de la Panouse. Alors, il faut savoir qu'en 1924, il y avait à peu près une trentaine d'enfants qui étaient hébergés. C'était donc la plupart du temps des orphelins, beaucoup d'enfants abandonnés, qui avaient perdu leurs parents. Mais il y avait également des enfants naturels, qu'on appelait à ce moment-là les enfants illégitimes. Et le souci de la vicomtesse, c'était de les accueillir dans cette pouponnière avec leur maman. Donc accueillir également avec eux les filles-mères. Alors, cet abri, donc, au départ, comprenait à peu près une trentaine d'enfants, mais très vite, nombre d'enfants accueillis à Bourdigal a augmenté. Alors, en 1928, il devait y avoir à peu près 125 enfants, donc le nombre avait quadruplé par rapport à 1924. Et au début des années 30, l'abri maternel a accueilli jusqu'à 300 enfants, plus les mamans, les filles-mères, une quarantaine de filles-mères. Donc c'était devenu finalement donc, une pouponnière très importante. Alors, parmi les enfants accueillis, des Français bien sûr, mais un certain nombre d'enfants étrangers. Il n'y avait pas de limite d'âge. L'abri maternel a fonctionné quand même pendant 20 ans. Les premiers enfants sont arrivés dans les années 20, au début des années 20. Et disons que beaucoup sont restés jusqu'à 14-15 ans. Parce que la vicomtesse voulait ensuite les aider à trouver du travail. Donc souvent, elle s'arrangeait pour aller voir les fermiers aux alentours, alors les former pour une profession.
Le 1er février. Chère madame, je m'adresse à madame Duval en tant que ma protectrice. Pouvez-vous me conseiller encore? Parce que moi, j'ai envie d'abandonner mon enfant. Car comment je pourrais me débrouiller alors que je ne gagne pas assez pour moi? J'entends dire qu'il n'y a pas d'embauche avec des enfants et les nourrices sont très chères. Si je garde l'enfant, je serai dans une grande pauvreté. Comment peut s'en sortir une pauvre fille avec un enfant? Comment survivre? Je vous en prie, madame, trouvez-moi une place parce que j'ai qu'une robe et je suis très gênée. Car j'ai rien pour me couvrir. Le bon Dieu me punit et je dois me débrouiller. Je suis seule au monde. Je vous informe qu'à la maison maternelle, tout va très bien. Mais s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire, car j'ai très envie d'abandonner l'enfant. Sinon, je vais être dans une grande pauvreté. Je vous salue, madame Duval. S'il vous plaît de m'aider et de me répondre vite. Valeria Tsegan.
Claude Delage, ces enfants qui sont hébergés dans ce manoir vont aussi à la messe, j'imagine. Alors, ils vont à la messe où?
Oui, alors, bien évidemment, parce que l'enseignement religieux est très important pour la vicomtesse. Et les enfants ont eu une éducation religieuse très poussée. Alors, il faut savoir que tous les matins et tous les soirs, la prière était obligatoire. Et évidemment, la messe dominicale. Alors, il y avait une messe le dimanche. Et il y avait également une messe le jeudi, parce que le jeudi, c'était à ce moment-là l'équivalent du mercredi aujourd'hui. C'était donc un jour consacré au catéchisme. Et il y avait également une messe donc, à laquelle devaient assister les enfants.
Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en présence d'une émigration de femmes seules en nombre.
Marina Laurent.
Ça, c'est pas très fréquent. Parce qu'il y a ces contrats pour la France, concernent les mines, etc. Et il y a des femmes, mais ce sont des couples qui viennent. Or là, ce sont des femmes qui partent seules de chez elles. Dans un de ses comptes rendus, Julie écrit « J'ai en ce moment même, à la maternité, à la maison maternelle, 6 mères abandonnées. J'en aurai bientôt une 7e. Un seul enfant est d'un père polonais. Les 6 autres ont des Français pour père, dont 3 ouvriers, un fils de patron, un patron. Toutes sont seules à élever leur enfant. Est-ce juste ? Toutes les gardent et paieront comme tant d'autres qui sont ici les nourrices. Il leur faut du courage. Qui demandera compte au père des enfants ? Quelles peuvent être les sanctions ? Il y a tout le temps ce problème des pères non sanctionnés. Et là, Julie Duval est très féroce. Et la manière dont y compris la fermière traite ces femmes. L'une d'elles, elle cite ici l'une d'entre elles, qui lui dit « J'ai besoin de mon ouvrière, elle n'a que faire de ce petit, elle n'a qu'à l'abandonner ».
Je plairai toute la journée dimanche dernier, ma chère madame. Je vous demande de me trouver une place près des Bourdigales, car je suis à 30 km de là-bas et j'ai pas d'argent pour me payer ce trajet. Madame, est-ce qu'il y a des trains ou des autobus qui vont là-bas? Car je voudrais aller dimanche prochain, mais je sais pas comment faire. Je vous demande de m'expliquer. Władysława Itczak, 5 juillet 1933.
Julie Duval, elle naît à Lwów en 1875. On sait qu'elle a passé le baccalauréat en 1894. Et on pense qu'elle est venue après. 2 ans après, sans doute, parce qu'entre-temps, elle fait une école industrielle. C'est à Paris qu'elle va rencontrer son mari. Et ils vont se marier en 1903. Ensuite, elle part au Maroc avec son mari. Le couple va se désintégrer. Et elle va revenir en France. Et elle décide de s'inscrire à l'école sociale de l'association du surintendante qui a été créée pendant la Première Guerre mondiale, comme on le sait, pour soutenir les femmes qui allaient à l'usine.
C'est le préfet de l'Indre-et-Loire qui la nomme avec l'assentiment du ministère de l'Agriculture.
Oui, mais en même temps, il cherche dans un vivier. C'est les personnes qui sortent de l'école des surintendantes. C'est l'école qui propose et c'est ainsi qu'elle est nommée. Voilà.
Elle a des obligations. Par exemple, elle est obligée de mener des registres de ses interventions. Elle doit remonter en quelque sorte différents problèmes vers les autorités. Par contre, agir sur le terrain, son action, elle a des limites. Et il y a aussi cette exigence dans la nomination des inspectrices, c'est que Paris exige que ce soit des ressortissantes françaises et Varsovie impose la condition qu'ils sont polonophones. Donc il y a cette exigence de maîtriser la langue polonaise pour communiquer, on peut dire, avec celle auxquelles elle doit porter l'aide, le secours.
Oui, parce qu'elles ont une mission, ces inspectrices.
Oui, c'est de superviser, en quelque sorte, de porter l'aide et le secours, de faire le relais entre les ouvrières étrangères, et là, pour le principe, polonaises ou les ouvrières de l'Europe centrale, et l'administration française et les employeurs, bien sûr.
Et là, on se trouve essentiellement en région agricole. On ne parle pas des villes, on ne parle que des campagnes.
Non, parce que dans les villes, c'est plus facile de trouver aussi d'assistance que dans les campagnes où les fermes sont éloignées, qu'on ne dispose pas de moyens de transport et surtout on n'arrive pas à s'exprimer en langue française.
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Le 26 juillet 1931. Chère Madame, nous nous adressons à vous avec une immense demande dans notre triste vie. Moi, Maria Kamińska, j'ai pas connu de désagréments pareils de mes patrons en travaillant 3 ans à la même place que là, dans ce nouvel endroit en 1 mois. Je travaille tout ce que je peux. Je suis pas une paresseuse et jamais ils sont contents. Voyez-vous, Madame, moi je suis avec mon enfant et je regrette de devoir écrire qu'il traite très mal mon enfant. Nous sommes 2 ici, Maria Kamińska et Genoveva Kaczmarek, et toutes les 2, nous y tenons plus. Sans raison, il nous crie dessus. C'est à devenir folle, Madame. Genoveva, elle aussi a déjà travaillé dans plus d'un endroit et jamais elle a connu des choses comme maintenant. Je suis très affligée quand quelqu'un me crie dessus sans raison. Cette patronne, quand elle veut quelque chose, même si elle voit qu'on n'en peut plus, elle insulte. S'il vous plaît, Madame, est-ce que ça doit être comme ça? Merci de nous conseiller. Voyez-vous, Madame, les patrons reprochent aussi qu'on mange trop. Avec nos respects pour vous, Kamińska et Kaczmarkowa. Au revoir, Madame.
Dans très peu de lettres, elle parle de leurs parents, elle parle de leurs enfants ou de paysages. Je crois que j'ai jamais trouvé une lettre qui évoque un paysage de Pologne, par exemple.
Sylvie April.
Ou un objet qui les rattache à la Pologne. Ce qui fait leur dépression profonde, qui est mentionnée par les médecins, qui disent non, elles sont pas malades. Celle que vous m'avez envoyée, elle est pas malade. Elle est complètement, c'est pas les termes de l'époque, mais disons, elle est dépressive. C'est l'isolement. C'est le fait de ne parler à personne. Enfin, certaines disent je deviens folle. Enfin, il y a des cas d'aliénation. Hein. On en a. Je deviens folle parce que je ne peux parler à personne. Donc certaines parlent à haute voix. Enfin, elles sont vraiment enfermées dans le silence face à un milieu qui leur apparaît hostile. Et donc il y a des cas d'enfermement, il y a des cas de disparition aussi, et on sent qu'elles repartent à pied, ou qu'elles s'en vont, ou qu'elles disparaissent pour se suicider. Il y a certainement de cela, mais ça tient à cet isolement plus qu'à la nostalgie, il me semble. Mais bon, certainement, il y en a qui sont ravis de repartir. Mais c'est souvent un peu contradictoire, parce qu'à la fois, donc, il y aura ce sentiment de solitude. Mais ce sentiment de solitude, elles veulent le combattre par le fait de faire venir quelqu'un, donc quelqu'un qui va finalement partager leur situation. Ça pourrait paraître assez étonnant, hein, d'avoir une situation si difficile et de vouloir faire venir quelqu'un qui va vivre la même chose que vous. En espérant d'ailleurs qu'elle sera la sœur ou le frère, mais plus souvent la sœur, trouvera une bonne place. Hein. On cherche souvent parfois même une meilleure place. Et elle se donne des informations, on sent que les informations circulent. Hein, quand elle s'adresse à Julie Duval, elle demande des nouvelles des unes et des autres, ou elles en donnent aussi en disant ben là, elle a trouvé une bonne place, elle est là enfin. Parce que le rêve, hein, c'est d'être placée dans une famille en ville, c'est-à-dire de devenir une bonne en ville, où là quand même les conditions sont plus... Généralement plus agréable.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Il y en a une qui raconte que voilà, elle enfile son manteau, elle va à la messe, et puis elle attend, elle a chaud, puis elle se remet à travailler, elle enlève son manteau et sa patronne lui dit ah ben tu n'es pas prête, et elle part sans elle en voiture avec son mari en riant, et donc elle reste là à pleurer. Voilà, c'est des petites choses, mais on sent bien ces petites humiliations qui font aussi cette relation tendue, difficile avec ses patrons, qui sont pas tous odieux. C'est vrai que le biais de ces lettres, c'est que n'écrivent aussi quasiment que celles qui se plaignent, hein. Très peu d'entre elles écrivent pour dire que tout va bien, c'est évidemment un biais.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
la messe, c'est l'endroit où on se rencontre autour de l'église. C'est un moment social où on échange les nouvelles. Et là aussi, c'est très dur pour elle. Elle n'imagine pas du tout que tout ça va disparaître. Ce sont tout de même des femmes qui sont venues vers un inconnu. Elles sont sidérées par ce qui leur arrive. Elles ne savent pas gérer ce problème-là. Donc elles réclament des prêtres. Et Julie Duval, d'ailleurs, va écrire « Ces filles laissées à elles-mêmes sans le secours de la religion, qui dans leur pays les soutenait et qui était pour elles la seule règle morale, ces filles auxquelles toute distraction, tout plaisir, même les plus innocents, comme celui de causer avec un compatriote, est refusé, que l'on réduit à l'état de bête. » Et ça, c'est réel. Il y a vraiment ce problème très grave de ne pas avoir de prêtre régulièrement. Elle le réclame tout le temps.
Juillet 1934. Dans les premiers mots de ma lettre, béni soit Jésus-Christ. Et je m'attends à ce que maman vous me répondiez pour les siècles des siècles. Amen. Maman chérie, je vous informe dès mon arrivée chez ce patron-là que pour ce qui est de mon travail, j'ai à traire 9 vaches et il y a un très grand taureau, maman chérie. Et je dois aussi nettoyer le fumier de ces vaches chaque matin. Maman chérie, je dois tirer l'eau du puits pour ces vaches et j'ai encore des cochons. Il y en a tant que je ne sais pas combien. Je dois aussi faire la lessive. Maman chérie, mes mains me font tellement mal que la nuit j'arrive pas à dormir après un travail aussi pénible. Maman chérie, je dois tirer l'eau, plus de 30 seaux par les vaches et pour les chevaux, 2 grands. Maman chérie, quand il y a eu une fille française, elle n'a pas fait la moitié de ce travail que je fais. Maman chérie, ce patron n'a pas de mesure, et la patronne non plus. Maman chérie, je vous demande très humblement de me venir en aide. Ma sœur aussi lui a dit que c'est trop de travail, mais il s'en moque. Il dit qu'une fille polonaise est forte, mais elle doit toujours trouver plus de force. Je demande très fort à maman de venir le plus vite possible. Toutes les deux avec ma sœur, nous vous le demandons poliment, sérieusement et du fond du cœur. Nous vous saluons très bas, maman chérie. Ce patron n'a pas le sens de la mesure. Et je vous prie, maman, quand vous viendrez, de tout lui dire. Expliquez-lui parce que ce n'est pas possible de travailler aussi dur. Je tiendrai pas toute une année. Je vous souhaite santé et bonheur. Leonora Adamus et Bronisława Adamus.
C'était une des grandes difficultés de la lecture de ces lettres et de leur traduction, c'est qu'elles sont en grande partie, comment on pourrait dire, oui, primo-épistolaires, comme le dit Elzbieta Lapka, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais écrit de leur vie et que c'est la première fois qu'elles se mettent à écrire. Donc la matérialité même des lettres est étonnante, c'est-à-dire qu'elles écrivent sur des bouts de papier, elles ne coupent pas les mots, on a quelque chose qui est, sauf parfois quand elles se font aider, on peut penser qu'il y a parfois donc des aides extérieures, mais c'est d'une lecture très, très difficile, avec des formules qui, au début, dans les quelques traductions que j'avais vues, étaient assez étonnantes, puisqu'elles appellent Julie Duval, qui est une femme plus âgée. Elles l'appellent maman, maman chérie, il y a des références à la Sainte Vierge, donc c'est assez étonnant comme style, avec des formules qui sont parfois aussi des formules très ampoulées, dont on peut penser qu'elles les ont entendues et qu'elles se disent que ça donne un côté très respectable à leur missive. Donc ça, c'était vraiment un gros souci de savoir comment on allait aussi retranscrire tout cela en essayant de lui garder sa saveur d'oralité.
Et du coup, donc, même quand nous, pour traduire ces lettres ou même déchiffrer en polonais, étant parfaitement polonophone, il faut souvent les lire à haute voix parce qu'elles sont écrites de façon phonétique. C'est très dur de déchiffrer sans aucune connaissance de l'orthographe presque polonais. Donc c'est très difficile. Mmh.
En 1934, le rapport annuel de Julie Duval montre son implication quotidienne. Elle a accueilli à la gare environ 206 ouvrières, arrivées après avoir signé un contrat de travail avec un employeur français. Dans son bureau, elle a reçu 481 patrons et 781 ouvrières. Elle a ouvert 1592 lettres et en a envoyé 1601. Elle a rendu visite à 238 ouvrières à l'hôpital, dont 28 avaient accouché dans la solitude. Ronald Upshur, à cette époque, trouvait-on des immigrés polonaises dans d'autres départements que l'Indre-et-Loire ?
Il y en a un peu partout, mais avec des concentrations très fortes dans les départements du Nord, de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Et en comparaison des lettres de ces Polonaises d'Indre-et-Loire qui mettent l'accent surtout sur les problèmes de la traite et qui évoquent assez peu les autres activités auxquelles elles devaient se prêter. Nous avons des exemples dans le département du Nord, le village d'Ambief en particulier, où on voit que c'était un travail beaucoup plus large. Et notamment les Polonaises qui travaillaient dans cette aire nord du bassin parisien, travaillaient au champ. Et on leur faisait faire notamment le binage, le sarclage et l'arrachage des betteraves, ce qui est un travail extrêmement pénible et dur, coupé en deux, mais auquel elles se prêtaient. Outre le fait que, bien sûr, elles devaient s'occuper, comme on dit, du dedans, hein, par rapport au dehors, et notamment de la laiterie. Et elles étaient extrêmement demandées par les agriculteurs français, ces femmes polonaises, parce que elles étaient, on les jugeait, si vous passez l'expression, costauds, robustes, et finalement pouvant accomplir toutes les tâches. Elle travaille comme un homme. Ça, c'était vraiment l'argument massu.
Alors qu'elles sont payées comme des femmes.
Et elles sont payées comme des servantes. Donc, sur le plan légal, comme on dit maintenant, ça prête à discussion. Mais c'est un travail considérable qu'elles pouvaient faire. Et avec, en plus, le fait que, comme on jugeait qu'elles étaient frustes, peu difficile, on les logeait un peu n'importe comment, souvent dans des granges, dans des chambres qui n'étaient pas chauffées, et en disant qu'elles sont capables de supporter tout, donc là, on allait tout allait dans le même sens, si je puis dire.
Ronald Upshur, la rupture de cette immigration polonaise en France, c'est la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, la Seconde Guerre mondiale va créer évidemment une fermeture des frontières, mais ça va repartir. Après la Seconde Guerre mondiale, l'immigration, qui a été bien sûr bloquée pendant le conflit, reprend vigoureusement, puisque jusqu'à partir des années, disons, 1960, on constate qu'il y a à peu près 200 000 entrées par an, toutes catégories confondues. Et sur ce nombre, évidemment, les travailleurs de l'agriculture représentent, on est toujours à peu près dans les mêmes eaux, autour de 30%. À partir des années 60-70, vers plutôt les années 70, eh bien, on constate une diminution extraordinaire du nombre d'émigrants. Comment l'expliquer ? Bien, d'une part, c'est parce que la politique suivie en agriculture met l'accent sur ce qu'on appelle le productivisme, c'est-à-dire le rendement maximum à l'hectare, qui suppose des concentrations de terres beaucoup plus larges, des étendues de terres beaucoup plus larges, pour pouvoir mettre ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, les engrais, etc. Et donc, on a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre. Ajoutez à cela que les pays d'origine, qui étaient des pays d'immigration, sont devenus des pays qui ont connu un développement économique conséquent. donc plus besoin de venir travailler en France. Il y a des retours aussi qui se font maintenant, des gens de l'Europe de l'Est, polonais, tchécoslovaques, mais en nombre, je dirais, extrêmement limité. Ça n'a plus rien à voir avec l'âge d'or, si je puis dire, des années 20-30.
Conditions de logement. Grand A, écurie ou étable. Grand B, chambre ou dortoir. Biffer l'une ou l'autre de ces deux mentions.
Catégorie T, bonne de ferme, avec Sylvie April, Monica Salmon-Siama, Marilla Laurent, Ronald Upshur, Claude Delage et les voix de Monique Stalins et Magojata Strouss.
Le 9 mars 1935. Madame l'inspectrice, je vous prie aimablement de me trouver une bonne place. J'aimerais beaucoup une place dans une cuisine. S'il n'y en avait pas, alors dans une bonne ferme. Une grande, pour que le monsieur soit riche, car chez le pauvre je suis pas bien. Je peux plus y servir, car ça va vraiment mal. Je voudrais partir le 24 avril. Je vous en prie, madame l'inspectrice, trouvez-moi une bonne place. Je vous prie du fond du cœur de me répondre. Antonina Jaszczak.
Czyci nie żal odchodzić od stron ojczystych świerkowych lasów i
Merci à Bérangère Casamayou, Bertrand et Caroline Dutot, Béatrice Lehoux, Serge et Marie-Thérèse Orivel. Prise de son, Laurent Lucas, Valérie Lavalard. Mixage, Claude Nior. Un documentaire de Dominique Prussac et Françoise Camard.
Nous continuons demain notre série consacrée à l'histoire des domestiques et de la domesticité en nous intéressant à la comparaison à faire entre deux pays, la France et la Grande-Bretagne, dans cette matière. Si vous voulez écouter ou réécouter l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion. Vous pouvez également réagir à cette émission sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC, puis notre email c'est fabrique@radiofrance.com.